Je suis au théâtre de Carouge, petite salle, avec son directeur général Jean Lhermier. Bonjour Jean Lhermier.
Bonjour.
Qui m'a accordé, c'est un grand honneur d'ailleurs, en pleine répétition pour votre spectacle Cyrano de Bergerac, vous nous accordez un peu de temps, de votre précieux temps. Alors Cyrano de Bergerac, il y en a eu plein, que ce soit au théâtre, que ce soit bien sûr dans le 7e art, on pense à celui fameux de Jean-Paul Rapneau avec notre cher Gérard Depardieu. Quel est le Cyrano qui vous a poussé à monter celui-là? Est-ce qu'il y en a un qui vous a tellement subjugué, séduit en tant que spectateur? Vous êtes dit, Cyrano, c'est important de le monter à Carouge.
Ouais, j'avais eu un choc il y a déjà très longtemps quand j'ai vu, tard le soir, un extrait de Daniel Sorano dans Cyrano, la séquence où Cyrano doit faire perdre du temps à De Guiche afin de permettre à Christian et Roxane de se marier. Et il se met à jouer un personnage qui dit qu'il est tombé de la lune. Et Sorano, dans cet extrait-là, est extraordinaire. Parce qu'à la fois, il y a la structure du vers, donc il y a une poésie dans le texte même, et en même temps, il y avait une liberté, une gravité, qui fait que j'avais été époustouflé, à la fois par l'acteur, et puis ça m'avait amené à me pencher sur le texte. Donc c'est vraiment la rencontre de Sorano, interprète de Cyrano.
Alors justement, vous parlez de rencontre. La rencontre, c'est déjà dès le départ dans l'œuvre de Maurostand, puisqu'il s'agit quand même d'un cadet qui a réellement existé et qui a inspiré ce fameux Cyrano de Bergerac, qui est resté un héros pour la littérature française. Donc là, c'est aussi une histoire de rencontre dans votre spectacle.
Oui, il y a la rencontre déjà avec l'interprète qui va jouer Cyrano, Gilles Privat. Mmh. Pour moi, c'est un des plus grands acteurs qui existe dans la francophonie, qui a bourlingué avec des gens comme Benoît Besson, comme Alain Françon, comme Mathias Langauf. Mmh. Donc il a une approche extrêmement variée avec des immenses metteurs en scène. Et il a un rapport à la langue qui est quasiment unique. Et il a une façon de s'emparer des vers qui fait qu'il donne l'impression que c'est en train de s'écrire, ici et maintenant. Et si on n'a pas le désir d'un acteur, ou si on ne projette pas quelqu'un dans le rôle de Cyrano, ça ne sert à rien, on ne le montre pas. Donc la première rencontre, en fait, c'est celle-ci. Et puis après, c'est vrai que la pièce tourne autour de trois hommes qui aiment une femme. Je dis trois parce que souvent, on oublie le personnage de De Guiche, qui est très important, en fait, dans la pièce. Il y a le petit Christian. Qui, lui, est extrêmement beau, mais extrêmement sot. C'est-à-dire, enfin, je ne dirais pas qu'il est bête, mais il n'a pas de culture, il n'a pas ce qu'a Roxane, qui vit dans les sphères des précieuses, de la préciosité à Paris, donc des sphères intellectuelles, littéraires, et que lui, il est complètement dépassé par ça. Et il dit, mais moi, quand je suis avec une femme, je n'ai rien à lui dire, je ne sais pas quoi lui dire, ce que je veux, c'est l'embrasser, puis c'est tout. Ça se résume à ça. Et il y a Cyrano qui, lui, et ça, c'est quand même pour moi le cœur de la pièce, et j'essaie d'en rendre compte là dans le spectacle, c'est qu'il n'est pas loin d'être un monstre. C'est-à-dire que souvent, dans l'iconographie des personnages de Cyrano, on a un nez un petit peu plus grand que d'habitude, un peu aquilin, mais qui reste quelque chose finalement de charmant. Et pour moi, parce que le personnage en parle, il parle de sa profonde laideur. Et que l'indication que j'ai donnée à Laetitia Rochet, qui a fabriqué le nez de Cyrano, de dire que si Gilles Privat mettait le nez et qu'il se promenait dans la rue, quand il croisait des enfants, les enfants se mettent à pleurer. Tellement il fait peur. Et que si on n'a pas ça, alors on n'a pas la douleur de Cyrano. On n'a pas cette souffrance intime, extrêmement violente, de cet homme-là qui a passé toute sa vie à construire un personnage pour se défendre. Il a construit un système afin qu'on ne l'humilie pas, afin qu'on ne l'agresse pas, qu'on ne lui rappelle pas tout le temps. Donc il est devenu
éloquent,
violent, joueur, bravache, afin d'éloigner en fait les gens qui pourraient lui ramener avec un effet de miroir à sa réalité qui est sa monstruosité, ce qu'il considère être une monstruosité et ce qu'il l'est parce que les gens en parlent en ces termes-là. Et que là, ce personnage-là qui lui est amoureux de Roxane considère qu'il ne peut pas y accéder parce que voilà, il n'a pas le physique qui peut lui permettre de se rapprocher d'une fille aussi belle dans la mesure où il le dit, même une fille laide, il ne pourrait pas aller avec.
Et ce verbe qui lui sert à se défendre des sots lui sert aussi à séduire Roxane.
Oui, alors ça, c'est cette association qui va naître dans le deuxième acte, qui part finalement d'une profonde solitude et d'un désœuvrement à la fois du personnage de Christian et de Cyrano. Et les deux se retrouvent, bon gré mal gré, à se dire ben voilà, c'est dommage parce que je suis vraiment trop stupide. Et puis l'autre à dire ben c'est dommage parce que je suis vraiment trop moche. Et ils vont avoir cette idée, mais qui est presque faustienne, de se dire mais est-ce qu'à nous deux, on n'arriverait pas à composer un personnage qui lui aurait la force, à la fois associée du physique et de l'esprit, pour séduire Roxane ? Et c'est une invention qui se crée sur le coin d'une table en sirotant une bière, en disant ben, et si on faisait ça ? Et ils vont le faire.
La scène du balcon ?
La scène du balcon viendra plus tard, où on voit en pratique leur projet. Et là, c'est magnifique comme Rostand amène ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont être dépassés par leur projet. C'est-à-dire que le moment où, dans le troisième acte, Christian dit « Maintenant, ça suffit, j'en ai marre d'apprendre les textes que tu me donnes. » Parce que après nous, on se pose des questions de la réalité de leur projet. C'est-à-dire que Cyrano écrit les répliques que Christian, il fait l'auteur, et il écrit les répliques que Christian ensuite va dire à Roxane. Et puis là, il y a un moment dans le troisième acte où il se rebelle. Et il dit « Maintenant, ça suffit, j'ai compris comment ça marche, je suis pas si débile que ça, je suis quand même capable de lui dire deux, trois mots, et puis à un moment donné, si je sais plus en dire, je sais très bien l'embrasser. » Donc ça se réglera comme ça. Et il se retrouve en tête à tête avec Roxane, et il se prend un vent monstrueux, parce que la petite dit « Non, mais attendez, vous n'êtes pas capable d'aligner deux mots. Quand je vous dis « Mais comment vous m'aimez, vous êtes capable de me dire que beaucoup ?» Ça ne me suffit pas. Elle n'est pas dans cette... Elle attend autre chose d'un homme. Et pour le coup, il se prend une veste d'enfer et il appelle à la rescousse Cyrano. Mais Cyrano lui dit « Mais comment tu veux que je t'apprenne maintenant ? J'ai pas le temps d'écrire, elle va revenir. » Et que finalement, il se jette dans un projet improbable où Cyrano dit « Ok, moi je me cache là, toi tu vas dans la lumière et puis je te souffle le texte. » Et très rapidement dans la scène, mais c'est extrêmement concret, comme il y a le temps, l'inertie du moment où Cyrano souffle le texte à Christian qui va le répéter, et puis qu'il n'entend pas très bien, donc c'est un peu haché, elle va dire « Mais est-ce que vous avez la goutte à l'imaginative ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous parlez si lentement ?» C'est aussi prosaïque que ça. Et Cyrano se dit « Ça ne marche pas, on va être découvert. » Et pour le coup, il va prendre la place de Christian, tout d'abord par la voix, en imitant la voix de Christian, et puis la petite dit « Ok, super, j'arrive, je descends. » Et il dit « Non, descendez pas, il faut qu'on profite de l'ombre, restez où vous êtes, je sors. » Et il se met à mettre le chapeau, la veste de Christian, et à jouer le personnage de Christian, à prendre la place de Christian.
C'est presque un truchement métaphysique.
Non mais vous avez raison de passer ça, parce que la scène devient sublime si on l'aborde comme ça, si c'est pas une anecdote. Parce que qu'est-ce que va faire Cyrano ? Il va jouer un personnage, qui est Christian, en revêtant ce costume. Et ce qu'il va découvrir, c'est que quand il joue ce personnage, il peut être lui-même. Et il va dire, mais c'est hallucinant ce que je suis en train de découvrir, c'est que là je peux être sincère. Et il lui dit, mais vous avez toujours été sincère. Puis il dit, mais non, j'ai pas... Enfin bon, et puis il s'enverlificote parce qu'il ne peut pas dire que ce qu'il était en train de faire ou le plan qu'ils avaient mis, machiavélique qu'ils avaient mis en place avec Christian, et que pour la première fois de sa vie, il va pouvoir dire directement des mots d'amour à quelqu'un. Et épancher son cœur, et particulièrement à Roxane, cette fille qu'il aime depuis sa plus tendre enfance. Et que là, ça veut dire que le théâtre, finalement, le masque que peut apporter un costume ou un personnage, sert de révélateur. Et que la violence, du choc, ce que ça provoque chez lui, c'est que la petite va lui dire « Mais alors faites preuve d'esprit » et il dit « Mais non, là, il est en train d'arriver quelque chose d'exceptionnel, je veux en profiter et je ne veux pas passer à côté de ce moment parce que ça ne se reproduira pas. Donc on va faire fi de l'esprit, parce qu'en amour, il n'y a pas d'esprit, c'est pas ça. C'est deux cœurs qu'on arrache et qu'on pose sur une table et qui vont se mélanger. On va frotter nos âmes. » Et qu'un baiser, c'est la rencontre de lèvres. Enfin, il va avoir des images extrêmement concrètes. Et que la poésie devient une poésie, mais brute, brutale, de l'image qui devient immédiate. Et qui va chambouler Roxane. Qui tout d'un coup va découvrir autre chose dans l'amour, dont elle n'avait pas conscience même. Et que lui va lui faire toucher du doigt ça. Et il y a un moment dans cette scène-là, c'est pour ça que vous avez raison de parler de métaphysique ou de presque de psychanalyse, d'inconscient, du moi et de la séparation, de la dichotomie entre le corps et l'esprit, c'est qu'à un moment donné, quand Cyrano va se rendre compte qu'il est arrivé à séduire Roxane, parce qu'elle va pleurer, bouleversée, en lui disant « mais je comprends que c'est vraiment de l'amour, de ce que vous êtes en train de me donner, et que j'en suis bouleversé, et j'en suis transformé ». Et il va dire « mais alors c'est moi qui ai réussi à faire ça », alors que lui s'était mis dans la tête qu'il n'y aurait jamais accès à ça. Et qu'il dit « maintenant il ne me reste plus, il ne me faudrait plus », et Christian qui est planqué sous le balcon dit qu'un baiser. Et Cyrano dit non, attends, pas de baiser. Et la petite dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là en bas? Non, rien, je me parle à moi-même, pas de baiser, non, refusez-moi ce baiser. Et en fait, c'est hallucinant, il refuse de rendre à Christian son personnage. Donc il y a un vertige sur l'identité et dans leur projet qui les dépasse, qui est bouleversant à essayer de raconter, de mettre en lumière ou en ombre, parce que c'est l'ombre qui paradoxalement permet de révéler justement le personnage de Cyrano. Et dans le quatrième acte, la force et la puissance de ce qu'a donné à Roxane Cyrano va faire qu'elle va le rejoindre sur le champ de bataille, au siège d'Arras.
Bravant un interdit.
Oui, et puis traversant les horreurs de la guerre, elle ne va pas les dépeindre, mais elle va en parler en disant « mais c'est seul mon Dieu qui est l'amour m'a permis de traverser ça, en tout cas si votre roi... c'est celui qui crée tout ce que j'ai vu, alors oubliez-le, hein, parce que c'est juste une atrocité épouvantable. » Et elle va dire, au moment où elle va se retrouver en tête-à-tête avec Christian, qui va lui poser la question, « mais pourquoi vous êtes venu ?» Elle lui dit, « à cause des lettres. Les lettres que Cyrano envoie tous les jours, deux fois par jour, à Roxane. » Et elle lui dit, « ce que j'ai reçu dans ces lettres et ce que j'ai compris dans la scène du balcon, fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus être ailleurs qu'à côté de vous. C'est trop fort ce que j'ai compris. » Et qu'en fait, elle fait une déclaration d'amour extraordinaire à Christian. Et en fait, ce que Christian comprend, c'est que c'est une séparation. Parce que les mots d'amour, ils vont à quelqu'un d'autre. Et que là, les scènes qui s'en suivent sont déchirantes. Parce que l'amour que Roxane va lui donner, il s'estime pas légitime à l'avoir. Il va essayer de le rendre à Cyrano en lui disant « maintenant, il faut qu'elle choisisse. Il faut que tu lui dises tout, qu'elle découvre le poteau rose et qu'elle se précise, parce que moi, je veux pas être aimé pour quelqu'un d'autre. Je veux être aimé pour moi seul. Et je veux revenir en avant, et si on pouvait rejouer le premier acte, je le ferais. Parce que je m'y prendrais autrement, parce que notre pièce, c'était un truc foireux. » Et là, le moment ou l'instant où Cyrano va comprendre qu'elle est prête à l'aimer, non pas pour son écorce, comme dirait le petit prince avec le renard, mais pour son âme,
son essence,
le suc même de ce qu'est Christian, ou en tout cas l'auteur des lettres, mmh. Celui qui lui a exactement, il va se dire, mais alors peut-être que je vais y avoir droit, il va se lancer dans la déclaration, et Christian vient de mourir. Mmh. Et il se dit, là c'est trop tard, c'est fini, je ne pourrai plus jamais lui dire. Donc c'est à la fois une sublime histoire d'amour qui est tragique d'une certaine façon, mais d'un autre côté, moi je ne vois pas que ça, je ne vois pas que le tragique, parce que dans le cinquième acte, au moment de la mort de Cyrano, il va quand même pouvoir lui dire les mots qu'il avait écrits dans la lettre que Christian avait récupéré, et Roxane avait cru que c'était lui qui l'avait écrit, que ça s'adressait à elle, mais juste avant de mourir, Cyrano va pouvoir dire ces mots à Roxane, et que pour moi ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que y a un moment, c'est pas tant que le projet, elle le découvre finalement, c'est le fait qu'il ait pu lui dire ces adieux-là, avec ces mots qui étaient les siens finalement. Et il y a quelque chose qui me touche et qui ensuite se voit très concrètement en fait dans le spectacle. J'avais lu il y a fort longtemps déjà un recueil dans la collection Librio, ces livres à 2 euros. Un recueil qui s'appelle « Paroles de poilus » et qui sont des lettres et des témoignages de combattants dans les tranchées, dans la guerre de 14-18. Et j'avais été bouleversé. Bouleversé parce que la retranscription de ces messages était faite telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne savaient quasiment pas écrire. Donc c'est retranscrit en phonétique avec 15 fautes d'orthographe dans un mot. Et je me disais, tiens, c'est drôle. Ces gens-là qui, visiblement, n'ont pas l'habitude d'écrire, on n'a pas la connaissance de l'écriture, de l'orthographe, du vocabulaire, de la grammaire. Ils ont eu la nécessité, à un moment donné, d'écrire. Et que je me mettais quelques instants dans leur peau. Et en me disant, voilà, c'est une accalmie dans cette guerre épouvantable, si tant est qu'il y ait des guerres qui ne soient pas épouvantables. Et un combattant va s'isoler dans un coin de la tranchée. Il va mettre la main sur un petit bout de papier, froissé. Il va essayer de le défroisser. Il va prendre un petit bout de mine et il va le poser. Et tout d'un coup, il va se mettre à écrire. Le moment où il écrit, maman, mon amour, les enfants, il n'est plus dans la guerre, il est avec eux. Et que cette chose-là, pour moi, elle était fondamentale, sur l'écriture, la nécessité de l'écriture, comme elle est
nécessaire. Échappatoire.
C'est à la fois un échappatoire, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est vrai, on n'est plus dans la réalité de l'instant, et en même temps, on est directement connecté avec les autres. Vraiment, avec les autres. Ça nous met ensemble. Et que je vois, comme je le disais pour le théâtre tout à l'heure, qui était un révélateur pour Cyrano, parce que la pièce commence par quand même le personnage de Cyrano qui interrompt une représentation théâtrale. Donc le théâtre est présent aussi dans l'œuvre, mais pas que. Il y a aussi ce geste-là qui est le geste de l'écriture. Et que par extension, je me dis l'art, d'une façon générale, qui permet aux êtres humains de transcender leur vie, d'être ensemble, et dans les moments difficiles, d'arriver à s'en échapper, et à pouvoir tenir, à pouvoir mieux vivre, parfois survivre. Et que cette nécessité-là, de l'écriture, du théâtre ou de l'art, pour moi, elle est présente dans cette œuvre-là. Et que là, quand je me mettais dans la disposition de ces combattants qui faisaient ça, et ce geste-là, pour moi, il est exactement celui de Cyrano. Parce que ces moments-là, il est complètement avec elle. Et que là aussi, on a l'autre côté du miroir, c'est ce qu'il a réussi à mettre avec l'encre couchée sur le papier et qu'a lu Roxane, elle, quand elle recevait les lettres, est d'une intensité telle que, comme je le disais tout à l'heure, elle ne peut plus faire autrement que de le rejoindre. Parce que ce ne sont plus des mots. Elle entend une voix. La voix qu'elle a entendue sous le balcon. D'ailleurs, Roxane le spécifie. Elle dira, mais c'est drôle, vous n'avez plus la même voix. Et Cyrano de dire, oui, c'est normal. Et il va trouver juste une astuce pour justifier justement le fait que ce soit lui maintenant, qui avec sa propre voix, qui va jouer le personnage de Christian. Et elle va dire, mais cette voix, quand je lis les lettres, j'entends cette voix. Je vous entends. Et que c'est tellement intense pour lui, pour elle, qu'elle ne peut plus faire autrement que de le rejoindre. Et que là, j'essaie d'en rendre compte, là aussi, dans le spectacle, sur le quatrième acte, sur la guerre. Je faisais écho aux comédiens où je leur parlais d'un journaliste de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel, grand reporter, qui a couvert tous les conflits. Et que j'ai vu récemment à Lausanne et qui me racontait, il était sur un front en Moyen-Orient et il était dans une colonne, seul journaliste parmi des militaires, et tout d'un coup ils entendent des cris. Et ils regardent au loin et un camion leur arrive dessus. Ils savent que le camion est piégé, qu'il va exploser. Tout le monde s'apprête à tirer. Et on entend de plus en plus fort les cris. Et là, Chauvel dit, je vois les militaires qui baissent les armes, qui ne tirent pas. Et qu'est fait Daesh? Ils mettent les femmes devant le camion, attachées. Et que les gars ne peuvent pas tirer. La guerre, c'est ça. Ce que traverse Roxane, c'est ça. Et que s'il n'y a pas cette violence-là, cette dangerosité-là. Alors, c'est une jeune fille qui traverse comme ça la campagne avec deux, trois petites choses. Mais non, je pense que l'amour ou ce que lui a fait toucher du doigt et qui l'a traversé, c'est que avec cet amour-là, cette force-là que ça lui confère, cette foi-là, parce qu'elle en parle comme d'un dieu de l'amour, ça fait que ça lui permet de braver la mort. Il n'y a plus de... Cette question-là n'existe plus. Et qu'elle ne peut pas être ailleurs qu'à côté de celui qu'elle aime. Et de se battre s'il faut à ses côtés. Voilà. Mais en tout cas, si on meurt, on mourra ensemble. Et que la puissance de cet amour-là, là aussi, dans les signes qu'on donne dans la représentation, c'est fondamental pour comprendre, encore une fois, la force du geste de l'écriture, de ce que la petite a reçu, de ce qu'elle en a fait, et de ce qui lui a donné cette force de traverser l'horreur. Et là aussi, comment l'amour devient de l'ordre de la nécessité pour faire nous rapprocher, pour être ensemble, pour partager, pour vivre ces moments-là. Et voilà, on est à la quête de à la fois de cette fièvre-là et de cette puissance-là qui fait, je pense, de cette pièce une sublissime histoire d'amour qui traverse, je ne vais pas dire les siècles parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. J'ai un des acteurs, sa grand-mère a assisté à une représentation lors de la création. Donc c'est pas si loin que ça, c'est créé en 1897. Mais Rostand a choisi de la situer, lui, à l'époque de Molière, au XVIIe siècle. Puis moi, je la resitue dans les années 15, on va dire, de 1900. Donc on joue comme ça sur le temps. Mais la fièvre de l'amour, et ce à quoi peut-être on aspire tous, ou ce besoin-là, cette quête-là, c'est un des socles qui fait que cette œuvre continuera de nous bouleverser, parce que c'est constitutif des êtres humains. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que Cyrano est porteur d'une chose que nous avons tous, à notre façon, extrêmement intime, qui sont des doutes. Le bonhomme est pétri de doutes. Et si on arrive à toucher ces quelques instants où, au détour d'une réplique, il nous dira, mais il dira à son ami Lebray, qui est un grogneur devant l'Éternel, qui rouspète tout le temps, il lui dit, mais oui, mon ami, j'ai de mauvaises heures. Suivant comment on le joue, et de ces mauvaises heures, je pense que on s'identifie tous à ça. Les moments où on a des doutes, pas forcément, parce que voilà, la nature l'a atrophié avec cette chose qui a dû l'amener à constituer des systèmes de défense. Mais on a tous, en nous, à plus ou moins grande échelle, mais on a tous à l'intérieur de nous ces failles-là, ces doutes-là, ces douleurs-là, ces souffrances-là, ces vertiges-là. Et que je pense que le personnage de Cyrano, il incarne ça. Et que le fait que il soit susceptible à la fois de trouver des ripostes, sa bravoure fait du bien, qu'il fasse la nique à un système, à la société, qu'il soit incapable de faire des concessions, ça fait du bien d'avoir un empêcheur de tourner en rond, de quelqu'un qu'on voit valsdinguer les systèmes, le pognon, la politique, voilà, parfois pour des raisons qui ne sont pas forcément idéologiques, parce que tout simplement il a tellement d'énergie ou tellement de souffrance, parce qu'il vient de comprendre que Roxane ne lui a pas donné rendez-vous à lui, mais pour qu'il intervienne à protéger celui qu'elle aime. Donc voilà, il est porté de ça, il se met à rentrer dans la diatribe des non-merci, mais on se rend compte que c'est d'autres choses en fait qui parlent. Que pointera Lebray, qui est un militaire, voilà, quelqu'un de simple, mais qui ne sera pas dupe, au fond. En l'entendant comme ça, il se dit, mais pourquoi il me raconte tout ça? Pourquoi il se met à... Et il lui dira, mais fais tout l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Et c'est ça, Cyrano. C'est que tout d'un coup, on a des répliques qui sont comme celles du nez. Tout d'un coup, voilà, il va de son brio d'inventer 15 milliards de façons de se critiquer lui-même.
Truculente,
avec des images comme ça, savoureuses, où il se met le public dans sa poche. Mais au fond, il ne fait que parler de son horreur à lui, et probablement de son vécu. Depuis la plus tendre enfance, où déjà dans la cour maternelle, les enfants se moquaient de lui, et qu'il va puiser dans son vécu, et il le réutilise pour le retourner contre les gens qui pourraient l'attaquer, donc il prend les devants. Mais que tout ça est toujours motivé de l'intérieur par la fatalité. Et que ça, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque et de la puissance de ces textes-là qui nous font du bien sur le fond, parce qu'ils mettent sur le plateau en lumière des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous et qui doivent le rester, mais que tout d'un coup il y a un écho, une vibration qui nous construise. Ouais. Il y a une vibration qui se met en résonance et qui fait que, même si on ne sait pas forcément mettre des mots dessus, ça fait que ça nous a fait du bien.
Jean-Lermier, je rebondis sur tout ce que vous venez de dire. Donc cette pièce, elle est très moderne. Elle a des résonances avec notre société, déjà sur l'apparence, l'importance de l'habit, plus que de l'être. Et puis sur l'importance de l'art. Récemment, on a rencontré Amos Gitaï qui parlait de l'importance de l'art, quel qu'il soit, plasticien, écriture, musique, cinéma, pour permettre aux gens de supporter l'horreur, justement.
Ben, pour moi, c'est au cœur de l'œuvre. C'est au cœur de l'œuvre. Alors à la fois, il y a l'horreur, et puis il y a la vie. C'est pas que... C'est que j'étais surpris de voir que, par exemple, dans les... en 39-45, dans les camps, de voir comment l'art a été, je dirais, salvateur pour certains, pour ceux qui auront pu en réchapper, mais même pour ceux qui, malheureusement, n'en sont jamais revenus. Mais les moments où ils se sont réunis pour faire de la musique en cachette, les moments où, ici, à Carouge, on avait mis en avant un texte d'un jeune garçon qui s'appelait Anouche, qui avait 14 ans, qui était dans un ghetto et qui a écrit une pièce de théâtre qui était cachée comme ça. Et ce môme-là a fait une pièce un peu à la Ubu, une satire du pouvoir politique, militaire. Et je me disais, mais qu'est-ce qui a poussé ces gens-là, dans ce moment-là, à passer par l'art pour pouvoir tenir?
On pense aussi aux dessins qui ont été faits à Stettin, cachés sous la terre.
Exactement. Mais on peut en trouver à tous les endroits du monde et à toutes les périodes. Et je me dis... Et c'est ça la force, et c'est en ça que les politiques doivent être conséquents et visionnaires par rapport à ça. Faut-il attendre que nous soyons dans un conflit pour prendre soin de ça? Et que je prends l'exemple d'un monsieur qui s'appelait Winston Churchill. Et dans la Grande Guerre, en 39-45, à un moment donné, il n'y avait plus de sous en Angleterre. Plus d'argent pour faire de l'armement. Et il fallait construire des canons et avoir des armes et des munitions. Et pour le coup, au Parlement... Il y en a un qui est arrivé à la chaire et puis qui a dit, ben voilà, écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on prenne ce budget et on va prendre ce budget de la culture pour pouvoir le faire. Et là, Churchill, très tranquillement, est monté et il a dit, mais alors pourquoi on fait la guerre? Si c'est pas pour protéger ça, justement. Et il a refusé de donner le moindre copec. Parce qu'il a dit, mais c'est justement ça que nous défendons. C'est justement ça qu'il faut préserver. Mais pas que dans cette période-là. Et que quand Malraux, dans ses grands discours, quand il a annoncé la décentralisation et qu'il devait aller glaner à l'Assemblée des moyens, des fonds pour l'accessibilité à la culture, par exemple, à travers les centres dramatiques en France, dans de la décentralisation, il comparait ça en disant, qu'est-ce que je vous demande? 1 kilomètre d'autoroute. C'est ça que je vous demande. Et cette mise en perspective-là, de ces gens-là, elle est juste sublime. Et que ça, on a envie de le partager, qu'il y ait une prise de conscience en disant, mais oui, fondamentalement, et je me suis battu, moi, par exemple, pour faire venir les géants royaux de luxe, parce que je pense que ce sont des signaux, tout d'un coup, de quelque chose qui est démesuré de par l'échelle des personnages des géants, mais qui est susceptible de mettre des
c'est
centaines
un peu de Gulliver et les Lilliputiens.
Oui. Et que ça n'est pas écrasant pour nous. Tout simplement, ce à quoi nous avons pu assister dans la rue de Genève, c'était des gens qui avaient envie d'être ensemble, qui souriaient ensemble, qui partageaient quelque chose, et que la vibration, encore une fois, qu'il y avait dans les spectateurs qui ont assisté à ça...
Un effet rassembleur.
Oui, fédérateur. Et qui fait que, ben voilà, nous reçoit une multitude de témoignages de gens qui disent merci, mais ils disent pas merci à moi, c'est pas ça. Ils disent merci parce que ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, là, leur a fait du bien. Et que ça, ils s'en souviendront pour des décennies. Et que cette chose-là, je ne dis pas qu'il faut faire des spectacles comme Royal de Luxe tous les mois, ce n'est pas le problème. On a besoin parfois de rendez-vous de cet ordre-là pour nous rappeler que toute la région fait partie d'un même périmètre géographique et que là, avec les géants, il n'y a plus de passeport. Parce que de toute façon, ils viennent de derrière le mur de plan comme au moment du Big Bang, donc tout ça vole en éclats. Nous sommes juste des êtres humains face à notre condition et que pendant l'espace des 3 jours, on a tous regardé dans une direction qui était celle de l'horizon que nous apportaient les géants. Et que ça fait du bien, qu'on le veuille ou non. Et que là, ensuite, ça nous ramène, nous, dans notre quotidien de petits artisans, dans nos champs respectifs d'activité, que ce soit au théâtre, dans les musées, dans la musique, dans la danse, partout. C'est que nous sommes là pour les gens. Et que le geste de leur tendre la main et de leur dire « voilà, nous sommes là ». Et que je vois les spectateurs qui... On a des listes d'attente là, sur des spectacles, mais parfois par soir, 80, 100 personnes qui veulent rentrer dans la salle pour voir le spectacle. Mais c'est juste extraordinaire. Ce désir-là, d'être ensemble, pour partager, pour entendre, pour recevoir la parole d'un poète, ça ne peut pas être autre chose que bouleversant. Et que cette chose-là, il faut la cultiver au quotidien et, voilà, et l'intégrer en fait dans une vision.
Mais depuis que vous êtes à la tête du Théâtre Carouge, Jean Lhermier, vous avez cultivé cette interaction avec le public à travers des ateliers, des débats, des rencontres. Ça vous est très cher.
Ben, disons que moi, c'est tout part d'une rencontre intime. Quand à 12 ans, voilà, il m'arrive un truc dans ma classe de français ou au détour d'une récitation faite sur la petite estrade de la salle de classe, je me mets à réciter Tartarin de Tarascon, et puis qu'il se passe un truc un peu étrange, c'est que les gens se mettent à rigoler, et plus ils rigolent, moins j'ai envie de rire. Et puis j'avais 12 ans, j'étais petit, j'ai l'impression d'être traversé par quelque chose, d'être ancré dans le sol. Enfin, un petit moment de grâce comme ça qui vous touche, mais qui vous... Voilà, c'est d'une puissance, mais assourdissante. Et que ce jour-là, je me suis dit, je rentre dans les ordres, là, c'est vraiment ça.
Mais que un sacerdoce.
Oui, mais que c'était... j'avais la chance que ça donne un sens à ma vie. Et que je me suis dit, très bien, je ferai ça, et que je ferai... Toute ma vie sera que travail pour ça. Mais c'est une chance incroyable. Et que depuis déjà un certain temps, j'ai envie de rendre ça, et de le partager. Et en disant... Trop souvent, on se dit, mais les artistes sont dans leur tour d'ivoire, et puis voilà, c'est le culte de l'ego. Mais ma réalité, mon quotidien, c'est tout sauf ça. Donc il faut essayer de trouver des outils, des moments, des endroits où on arrive à partager ça. Parce que je sais que les gens, par exemple, qui font du théâtre, à la technique, au plateau, les couturières, les habilleuses, le scénographe, la personne qui fait des lumières, le son, la personne qui va faire les accessoires, qui va faire un mouvement de perche, les acteurs, bien entendu. Et ce sont tous des passionnés. Et qu'ils ont, c'est une chance d'avoir cette passion-là. Et qu'ils puissent la cultiver, en vivre, en tout cas, au moment, dans le temps des répétitions, de la création d'un spectacle. Et que ça, quand on arrive à faire toucher du doigt aux spectateurs qui... à travers ces petits moments où on ouvre les coulisses, la porte. Mais les gens, ça les rend dingues. Ils se disent, mais c'est formidable. Et ce qui ressort systématiquement, oh, mais vous êtes des passionnés. Et que cette chose-là qui nous traverse, parce que je pense que ça nous traverse, ça ne nous appartient pas. Il faut pouvoir le partager. Et dès qu'on arrive à faire toucher du doigt... Le travail en amont, par exemple, sur la préparation d'un spectacle, où c'est plusieurs mois, parfois plusieurs années en amont, alors là, ça change tout le rapport au spectacle des spectateurs. Parce que tout d'un coup, il y a la question du travail, des signes qui sont donnés au moment de la représentation et qui permettent de déplacer simplement le « j'aime pas ». Parce que tout d'un coup, on se met à lire un regard sur une œuvre. C'est pour ça que Cyrano, tant qu'il y a quelqu'un qui... aura l'intuition qu'il entend quelque chose dans cette œuvre-là et qu'il sera honnête dans son regard d'essayer de comprendre pourquoi il a eu l'envie de rencontrer ce texte, de le donner à entendre et sous quel prisme il va le donner à voir, alors cette œuvre sera toujours une œuvre contemporaine, toujours. Un texte écrit aujourd'hui peut être déjà du passé. S'il n'y a pas ce regard qui fait qu'on veut l'éclairer ou la nécessité de le donner à entendre est telle que la vie va rejaillir sur le plateau. Et voilà, on est dans cette quête-là et depuis 10 ans, j'essaye de faire la part belle au travail, qui est voilà, quelque chose que je trouve... sain dans nos champs respectifs, enfin oui, dans notre travail, parce que il y a tellement de métiers différents, de corps différents, d'artisans différents, de savoir-faire, de compétences, parfois même de génie.
Dans une émulation.
Dans une émulation, dans la fièvre, dans la peur, dans le doute, dans les joies. Que ça, il faut essayer de le faire partager. Parce que c'est une vraie chance d'être dépositaire de ça.
Mais ce partage que vous cultivez, cette interaction avec le public qui vous l'a bien rendu, puisque les Carougeois ont compris qu'il fallait un espace plus grand pour le Théâtre de Carouge, vous aurez peut-être des horizons plus larges pour accueillir un public encore plus grand.
Oui, c'est-à-dire que la question des infrastructures, moi j'en ai hérité en prenant la direction du théâtre il y a bientôt 10 ans. Il ne s'agissait pas d'avoir un théâtre plus grand. Il s'agissait de pouvoir continuer ce que nous faisions. Et que je considère qu'un théâtre est comme un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a la partie qu'on voit, celle qui sort de l'eau, qui sont les spectacles, les rendez-vous où le public va venir dans la salle, le soir d'une façon générale. Mais que le reste du temps, mon équipe, elle est là très tôt le matin. Elle travaille tous les jours, parfois le samedi, le dimanche, on n'arrête pas. Et que la difficulté, c'est que le moment où est arrivé le référendum, on prenait la mesure de la méconnaissance, finalement, de la population, de nos spécificités. Et entre autres, que oui, on a besoin d'une salle de répétition. Oui, la petite salle était fondamentale. Oui, il y a une administration. Oui, il y a des lieux de stockage. Oui, il faut des lieux pour pouvoir construire des accessoires, pour pouvoir fabriquer des costumes. Et que toute cette zone qui est sous l'eau, qui ne se voit pas, qui est invisible, elle est fondamentale et nécessaire. Et que là, la discussion, elle a été là-dedans, en disant, mais si nous ne reconstruisons pas l'infrastructure, alors notre activité de théâtre de création, qui est l'ADN de ce théâtre depuis 1958, on va le perdre. Et que la question cruciale, elle était celle-ci, de quel théâtre on a envie, et que c'était au-delà des histoires de personnes. On a essayé de le mettre sur moi en disant, mais c'est lui, et puis voilà, c'est un côté mégalo, tout ça. Parce que c'est très difficile aujourd'hui, vous êtes vite suspect si vous avez envie de défendre quelque chose sans qu'il y ait un intérêt personnel.
La culture est toujours mise à mal, surtout.
Oui, il y a ça, et puis vraiment, c'est suspect, on se dit, mais c'est pour lui qu'il le fait. Je dis, mais non, c'est pas pour moi. Je le fais à la fois pour les centaines de personnes qui, depuis 1958, en tant qu'artistes, ont donné du bonheur, du plaisir, du désir à des spectateurs, et des centaines et les centaines de milliers de spectateurs qui sont venus et qui ont reçu ça. Et puis tous ceux qui vont venir. Et que moi, je défends le théâtre qui me dépasse, qui est bien plus grand que moi. Et que c'est ça que j'avais envie de défendre. Je suis porteur de ça. Et qu'on a réussi, et j'étais heureux parce que, voilà, il y a 66% quand même. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est à la retirette. C'est quelque chose qui est clair, qui est franc. De gens qui disent, oui, nous aimons ce théâtre, que le bâtiment, c'est une chose, mais qu'on a envie qu'il garde ses spécificités. C'est-à-dire qu'il génère de l'emploi, qu'il génère de l'économie, parce qu'on va pouvoir continuer de jouer nos spectacles sur des longues durées, qu'on va pouvoir profiter de la période dite du hors les murs, le moment où il faudra reconstruire, pour aller au-devant aussi d'autres spectateurs, de ceux qui ne vont pas forcément fréquenter des institutions culturelles, quelles qu'elles soient, pour des raisons qui sont les leurs. Mais de devoir sortir, par exemple, avec notre camion théâtre, qui est un conteneur mis sur des essieux et qu'on va promener. Là, on a commencé déjà au mois de juin, sillonner le canton, aller en France voisine, dans d'autres cantons, pour aller à la rencontre d'autres gens, de donner accès à des textes, à des artistes, à des moments de plaisir. Et ce dont je pouvais prendre la mesure, c'était que les endroits déjà qu'on a eu l'occasion de faire, mais les gens sont fous. Mais ils raffolaient de ça, ils disaient, mais quand est-ce que vous revenez? Parce que c'était aussi une petite commune où les gens vont se retrouver, où les gens vont dire, bah bon, c'est le théâtre de Carouge qui vient. Et ça crée là aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'événement, parce qu'on débarque avec une structure qui n'est pas un chapiteau, qui n'est pas comme un cirque, mais on revient à des fondamentaux, du théâtre de Tréteaux, des saltimbanques, où on a envie de faire... de venir avec un tambour et faire... Ou moi, quand tous les étés, j'amène mes enfants en Bretagne pour prendre le bonheur et qu'ils fassent leur se ressourcer en iode. Et à chaque fois, je me fais avoir avec le cirque qui débarque et qui fait « Le cirque Quintet ce soir sur la place de votre village !» En traînant un vieux lion famélique derrière, qui de toute façon ne fera pas partie du spectacle, c'est simplement un truc de pub. Mais tout le monde se met à être comme des mômes en disant « il y a le cirque, il y a le cirque ». Et ça crée quelque chose. Je me dis, il faut essayer de réactiver ça. Ce désir-là ou cette une part d'enfance qui est chez chacune et chacun de nous, en se disant « Attends, ils viennent, ils sont là !» Et qu'on ne soit pas sûr dans une position de défiance ou de dire « Ah non, de toute façon, le théâtre, c'est pas pour moi, puis non, c'est ennuyeux, puis j'y comprends rien. » Parce que c'est tellement pas ça. Et que, voilà, mon travail, et on va profiter toute cette période-là pour faire des formats typiques, pour aller au-devant des gens, juste pour leur dire qu'on est là, et que ils peuvent continuer d'être curieux, car ils le sont. Et faire preuve d'imagination, tout le monde peut le faire. Tout le monde en a. Il faut parfois juste un petit catalyseur, tac, pour susciter, pour réveiller ça. Et après, on a l'impression qu'on nous a soufflé dessus et que ça a enlevé plein de poussière. Ouais. Donc c'est ça qu'on essaye humblement de faire.
Et l'imagination, pour reprendre un titre d'un livre qui a eu beaucoup de succès dans les années 80, l'imagination est galopante. Jean Lhermier, vous nous avez accordé beaucoup de temps. Je vais juste vous demander une dernière chose. Quelles sont les grandes idées que vous avez voulu développer à travers la saison de cette année ?
C'était une saison particulière. Je l'ai travaillé en demi-saison parce qu'on était en attente du résultat du référendum qui est arrivé le 24 septembre. Donc là, j'avais déjà dû annoncer toute une partie de la saison. Donc là, un des prochains grands rendez-vous pour moi, parce que ça sera le dernier spectacle dans l'actuelle salle François Simon, c'est Cold Blood d'un réalisateur belge qui s'appelle Jaco van der Mal, à qui on doit Toto le héros, le huitième jour, ou récemment le tout nouveau testament avec Benoît Poelvoorde qui jouait Dieu, donc un réalisateur de cinéma populaire au sens noble du terme, grand public, et qui a inventé avec sa complice Michel Andemay un spectacle qui s'appelle Cold Blood et qui est juste unique. C'est, on assiste à un tournage de cinéma en direct sur le plateau, avec tous les machineries, les caméras, les décors qui sont miniatures. Et c'est un truc insensé, c'est que les personnages sont des doigts et qui sont filmés. Mais là aussi, en faisant preuve d'imagination et de curiosité, quand on vient voir, on se met à être bouleversé dans le suspense, à rire, à être ému, avec des petits personnages qui sont juste les doigts dans des décors. Donc on assiste au film, au tournage du film qui est projeté en direct, avec toutes les transitions, le montage, la bande-son. Et c'est un moment d'une intensité, c'est une heure et quart, on ne sait plus quoi dire, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de la performance, c'est une forme unique qui pour moi est une célébration, pour remercier la salle François Simon d'avoir bien travaillé pendant toutes ces années, et puis nous projeter sur l'avenir. Donc ce spectacle-là, qui est vraiment ça va être je le souhaite que les premiers spectateurs seront curieux, parce que je sais qu'après il y aura un phénomène de bouche à oreille,
comme d'engouement.
Parce que le partout où a pu passer ce spectacle, qu'on a coproduit, nous, le théâtre de Carouge, voilà, les représentations auxquelles j'ai assisté, c'est des standing ovations, et les gens ne veulent plus sortir parce qu'il se passe quelque chose quand il y a ce spectacle qui est juste unique. Donc voilà, c'est ça qui va advenir. Et puis après, ça sera le 26 février où je vais annoncer la suite, et je vais chambouler un petit peu les codes puisque je serai amené à parler des spectacles pour les années à venir. Il n'y a certes pas tout, hein, l'ensemble, mais il y a quelques gros spectacles qui jalonneront et qui participent de cette un peu nouvelle façon de parler de notre travail, c'est-à-dire d'être susceptible de parler et d'exciter des spectateurs pour des spectacles qui auront lieu dans 2 ans.
Alors, je vais vous paraître trivial, Jean Lhermier. Vous êtes un roc, vous êtes un pic, vous êtes une péninsule d'enthousiasme, de passion. Merci de nous avoir accordé tout ce temps.
Mais c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous m'avez portée.